Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à l'élection présidentielle, est l'invitée de 24 heures en question.
Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades.
Défendre les travailleurs et éveiller la conscience de classe, c'est le combat de Nathalie Arthaud dans cette campagne. Un combat qu'elle juge plus actuel que jamais.
Ce n'est pas moi qui suis caricaturale quand je parle de lutte de classe dans cette société. C'est la réalité. Voilà, quand on voit comment aujourd'hui les ouvriers, les intérimaires sont traités dans tous ces grands groupes qui affichent des bénéfices records, ça en est la preuve.
La candidate de lutte ouvrière n'est pas ouvrière, mais professeure agrégée d'économie et de gestion. Elle continue d'ailleurs à donner des cours 2 jours par semaine pendant la campagne. En 2008, Nathalie Arthaud succède à Arlette Laguiller en tant que porte-parole du mouvement, le seul petit parti à présenter des candidats à toutes les élections présidentielles depuis 1974, avec une ligne politique trotskiste assumée. Cette fois, Nathalie Arthaud est l'une des deux seules femmes avec Marine Le Pen à prétendre accéder à l'Élysée. Mais les points communs entre les deux candidates s'arrêtent là.
Le Pen, c'est le vote de la résignation. Voilà, tout simplement. Parce que, justement, on ne se sent pas en mesure d'aller demander des comptes à ceux qui profitent de notre travail collectif, ceux qui prospèrent sur notre sueur, sur notre travail quotidien. Eh bien, on va chercher à s'en prendre à des plus pauvres.
Pour Nathalie Arthaud, les chances de se qualifier pour le second tour sont extrêmement faibles. Mais sa campagne est pour elle le moyen de faire entendre une voix dissonante, la voix des prolétaires qu'elle veut défendre.
Bonjour Nathalie Arthaud.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a dit dans le sujet, c'est votre deuxième campagne présidentielle. On arrive à la fin là, puisqu'on vote dans 9 jours. Comment allez-vous ? Pas trop fatiguée ?
Non, ben non, ça va. Non, non. Il y a quand même pire dans la vie,
Oui.
que de faire les plateaux et de faire des interviews.
Voilà. Vous avez hâte que ça se termine ou pas ?
Non, écoutez-moi, c'est l'occasion là d'avoir plein de discussions, et y compris les retours que j'ai, ce sont des encouragements, beaucoup de gens qui me disent il faut que vous continuiez, voilà. Alors, ce qui est, j'allais dire marrant, mais bon, pour moi pas tellement, c'est que en même temps ils disent qu'ils voteront utile.
Oui.
Mais ils veulent qu'on continue le combat parce qu'en fait ça correspond quand même à ce qu'ils pensent, à leur colère, à leurs convictions aussi. Mais ils se sentent piégés. Par le jeu électoraliste. Donc moi, en gros, la semaine prochaine, c'est un petit peu mon objectif. C'est de convaincre qu'il faut voter pour ses convictions.
En fait, vous n'êtes pas comme Jean Lassalle qui est certain de gagner. Vous savez que vous ne gagnerez pas. Puisque je rebondis sur ce que vous dites, est-ce que vous diriez que votre candidature est finalement une candidature de témoignage? Et de ce point de vue-là, finalement, le pari a l'air d'être gagné, quoi. C'est-à-dire que vous avez fait passer vos idées, d'autant plus depuis cette semaine où on a une égalité de temps de parole et de temps d'antenne. Le débat la semaine dernière.
Ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas stérile et que dire ce que l'on pense, contester cette société, cet ordre social qui est basé, sur une classe qui domine toute la société parce qu'elle concentre les capitaux et parce qu'elle détient dans ses mains les grands groupes industriels et financiers et qu'elle en fait baver au monde du travail et qu'elle oriente, y compris l'économie et la société, dans un sens catastrophique. Dire cela, dire qu'on est dans une société qui est pourrie, eh bien moi je pense que c'est quelque chose de constructif parce qu'il faut que ceux qui le sentent, qui le pensent et qui se croient isolés, eh bien se rendent compte que non, il y a un courant de femmes et d'hommes qui existent, qui défend une politique, des perspectives et qui veut construire, qui veut justement préparer effectivement les têtes pour partir au combat.
Dans ce cas-là, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de porter un peu la campagne de Jean-Luc Mélenchon? Je vais vous faire hurler.
Pas du tout.
Mais vous voyez, vous êtes un peu sur le même créneau de façon globale, ce que je disais à mes invités tout à l'heure. Mais c'est-à-dire que vous prenez pas beaucoup de points puisque vous êtes crédité de 0,5 ou 1, ça dépend des sondages. Mais que du coup, vous portez un peu, vous êtes un peu dans les mêmes thématiques.
Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais surtout pas du tout dans la même démarche. Parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon explique, il suffira de voter pour lui, il est courageux, il a le verbe haut, il est déterminé, il fera, une fois arrivé à la présidence de la République. Il y en a d'autres avant lui qui ont distillé le même genre d'illusion. C'était Mitterrand, c'était Jospin, c'était Hollande, même en 2012. Mon ennemi, c'est la finance. Et au bout du compte, tous ceux qui sont arrivés à l'Élysée se sont couchés face à cette pression du grand patronat, de la
Donc
grande bourgeoisie.
Donc vous ne lui laissez pas le bénéfice du doute à Jean-Luc Mélenchon? Vous
non.
Parler d'illusion, c'est un mot fort quand même.
Oui, il véhicule des illusions. Parce que, à chaque fois les partis de la gauche gouvernementale, hein, ceux qui veulent gérer cet ordre social, expliquent qu'ils feront beaucoup pour les travailleurs, qu'ils changeront leur sort, etc. Et puis, arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils expliquent ? Ah bah, il y a le mur de l'argent. Il y a le mur de l'argent, il y a les dettes, il y a... on n'a pas les mains libres. Hein, et bah, on est obligé finalement d'accompagner la société,
le capitalisme. Si Jean-Luc Mélenchon était élu, vous ne pourriez pas travailler avec lui ?
Moi, je crois que s'il est élu, il se retrouvera confronté à ce mur de l'argent, comme à chaque fois. Et pour le renverser, ce mur de l'argent, il faut autre chose qu'un bon négociateur, que quelqu'un qui a des arguments. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé en Grèce avec Alexis Tsipras, qui avait été d'ailleurs soutenu par M. Mélenchon pendant tout, jusqu'à ce qu'il finalement qu'il renie et qu'il s'agenouille, hein, devant la Troïka, devant les différentes banques européennes. Parce que, pareil, Alexis Tsipras avait laissé croire qu'une autre politique serait possible en Grèce que celle de cette rigueur imposée à l'ensemble de la population. Et il a eu le soutien électoral. Il a organisé 3 élections qui lui ont donné, effectivement...
Et il n'a pas eu le champ libre tel qu'il l'avait promis.
Et au bout du compte...
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut
faire ? Les banques lui ont dit, bah, écoutez, c'est bien gentil, vous avez peut-être la majorité dans les urnes, mais nous... Il faut rembourser.
Donc
c'est comme ça que ça marche,
le
capital.
La solution, c'est quoi, Nathalie Arthaud, alors, pour pouvoir avoir quelqu'un à l'Élysée qui se mette pas à genoux devant les banques?
Mais justement, moi, si je dis que je ne suis pas candidate pour aller à l'Élysée, c'est parce que je suis convaincue que le prochain président de la République sera la courroie de transmission de cet ordre social. On ne peut pas imaginer gouverner dans un cadre qui est celui de la loi du marché, qui est celui du monopoly capitaliste, hein, et puis faire une politique favorable aux travailleurs. Les travailleurs se retrouvent confrontés
On ne comprend pas bien, du coup, pardonnez-moi, mais on a l'impression, du coup, que vous combattez sans espoir. C'est-à-dire, vous dites, moi, je me présente à la présidentielle, mais je sais que, de toute façon, qui que ce soit, celui qui arrivera à l'Élysée n'arrivera pas.
Parce que je dis, c'est que ceux qui partagent cette conscience, cette lucidité, j'ai envie de dire, parce qu'on n'en est pas à notre première élection. On n'en est pas à notre première élection. Il y en a eu des élections, des présidents de la République différents, des majorités gouvernementales différentes. Et pourquoi toujours la même politique? Pourquoi? Parce que c'est celle qui correspond aux intérêts de la classe dominante, de cette classe capitaliste. C'est ça la réalité. Donc moi, je dis aux travailleurs, il faut se rassembler derrière nos intérêts, mais avec affirmer collectivement cette nécessité qu'il faut renouer avec les luttes puissantes. Finalement, les travailleurs n'ont réussi à faire avancer leurs intérêts que lorsqu'ils se sont battus au travers de grèves, de manifestations, en instaurant un rapport de force tel que, en face, le grand capital prenne peur. C'est ce qui s'est passé en 36, en 68.
Donc, ça ne se passe pas dans les urnes. Ça ne se passe pas dans les urnes.
Ça ne se passe pas dans les urnes. Dans les urnes, ce qu'on peut faire, c'est s'exprimer collectivement de façon à montrer qu'il y a une force politique qui défend cette perspective-là. Et c'est quelque chose de très important. Parce qu'encore une fois, rester tout seul dans son coin, hein, en rongeant son frein, ça ne peut pas être effectivement constructif. Donc il faut construire une force politique qui propose cela, cette perspective-là. Donc moi, j'ai tout à fait ma place dans ce combat politique, bien sûr.
Vous avez fait, vous êtes présenté donc en 2012, vous avez fait 0,56%, si je ne m'abuse. Là, vous êtes crédité à peu près de 0,5%. En 2002, Lutte ouvrière et la Ligue communiste révolutionnaire cumulée, c'était à peu près 10%. Arlette Laguiller, elle avait fait 5,72%. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'était 2002. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre discours n'imprime plus?
2002, puis après il y a eu 2007 où il y avait déjà on avait fait moins de voix. Ouais. Donc les scores électoraux, ça va, ça vient. Et souvent d'ailleurs, ça correspond aussi avec la combativité du monde du travail. Nos scores les plus importants en 95 et en 2002 correspondaient aussi à des grèves assez importantes, des moments où les travailleurs reprenaient confiance dans leur force collective, dans ce qu'ils étaient, dans ce qu'ils constituaient. Et moi, dans cette campagne, je veux leur dire ça aussi.
Ils n'ont plus confiance aujourd'hui, ces travailleurs-là.
Aujourd'hui,
ils sont abattus.
Aujourd'hui, il y a des licenciements, il y a des fermetures d'usines. Et vous savez, même dans des grands groupes, Whirlpool, c'est un grand groupe qui fait des super profits. Je sais aussi qu'il y a un hôtel Hilton qui ferme à Orly. C'est le groupe Accor, 1,6 milliard de bénéfices. Les 100 employés sont sur le carreau. Pas de reclassement, rien du tout. Donc on est confronté à cela sans trouver effectivement le moyen de riposter à l'échelle de l'ensemble de la classe ouvrière. Parce qu'il faudrait faire ça. Donc ça pèse effectivement sur les consciences, sur le moral, sur la combativité de tous. Donc
en fait, vos propositions, elles ne sont pas faites pour être appliquées, elles sont faites pour frapper les esprits. Et pour être ensuite transposées dans la rue.
Elles sont faites surtout pour que chacun prenne conscience du combat qu'il y a à mener. Moi, vous savez, les grèves et le moindre débrayage et même la moindre protestation, elles se préparent d'abord dans la tête. Il faut être sûr de sa légitimité. Mmh. Et dans cette élection, je tiens à dire, les travailleurs sont légitimes. Légitimes à revendiquer un emploi pour tous, un salaire correct, un SMIC à 1800 euros net par mois. Cette nécessité d'aller contrôler l'argent qu'il y a dans ces grandes entreprises, parce qu'on nous explique toujours qu'il n'y a pas d'argent pour embaucher, pour augmenter les salaires. Et puis ensuite, on voit qu'ils sont distribués aux grands actionnaires toujours plus et qui s'accumulent
des gros groupes, parce que la majeure partie des entreprises en France sont des PME.
Oui.
Les salariés sont majoritairement employés par des PME.
Donc. Un tiers des salariés du secteur marchand sont employés par 250 entreprises seulement. Et ces 250 grandes entreprises ont un pouvoir sur bien d'autres entreprises intermédiaires qui sont des sous-traitants, des entreprises qui bossent pour ces grands groupes. Donc en réalité, c'est quelques grands groupes. En gros, il y a quand même 5000 entreprises qui contrôlent la moitié, non seulement des salariés, mais voilà, l'essentiel de la vie économique. Donc il faut prendre, je crois, le problème par ce bout-là, par ce bout des grandes entreprises qui prospèrent, parce qu'on voit quand même que les profits sont toujours plus importants, 76 milliards réalisés là au CAC 40, et on nous explique en même temps que c'est la crise, qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut accepter
que la retraite recule. Mais les profits servent aussi aux grandes entreprises, pardonnez-moi, je me fais un peu l'avocat du diable, mais les profits servent aussi aux entreprises pour qu'elles investissent.
Eh bien moi, je m'inscris en faux là-dessus, parce que même cette fonction-là, ils ne la remplissent plus. Et il faut toujours que l'État vienne aider, qu'il mette au pot, qu'il garantisse pour qu'il y ait un peu d'investissement. Vous voyez, même Sanofi, je dénonce souvent Sanofi, parce que Sanofi, c'est donc le grand groupe qui est connu, le roi de la pharmacie, il a distribué 6,7 milliards de dividendes à ses actionnaires en 2016. 6,7 milliards. Et on m'explique que Sanofi est un groupe qui investit dans des nouvelles molécules, etc. La réalité, encore une fois, c'est qu'il a encaissé le crédit d'impôt compétitivité emploi, le crédit d'impôt recherche à un niveau très élevé et il supprime des emplois dans la recherche. Ce groupe supprime des emplois dans la recherche. Donc c'est un véritable scandale. C'est un scandale et il faudrait arrêter justement cette politique-là.
Et quand vous dites qu'il faut arrêter les licenciements, interdiction des licenciements, une entreprise, elle a besoin d'être compétitive pour pouvoir investir, pour pouvoir innover. Ça pose aussi un problème sur l'emploi, c'est-à-dire qu'une entreprise à qui vous dites vous avez interdiction de licencier, ben résultat, elle n'embauche pas, ça multiplie les emplois précaires. Et puis ça pose un problème aussi pour les entreprises étrangères qui seraient intéressées pour investir en France. Du coup, ça bloque tout ça. Est-ce que vous n'avez pas un discours qui verrouillerait ?
D'abord, moi, je pense que tomber dans le panneau et croire au mensonge que l'entreprise a besoin de licencier pour être plus compétitive, l'entreprise a besoin de licencier pour qu'une plus grosse part aille aux grands actionnaires.
C'est vrai pour Paris, qui veut séparer d'un salarié qui ne fait pas l'affaire,
etc. Alors, elle supprime des emplois pour aggraver l'exploitation, pour aggraver les cadences des autres, pour presser le citron, effectivement, de façon à ce qu'elle serve encore mieux les grands actionnaires. Et moi, je ne me positionne pas du point de vue de l'entreprise. Vous me dites que l'entreprise a besoin d'eux. Mais un salarié...
Il y a beaucoup de PME qui déposent le bilan, ce n'est pas pour profit d'actionnaire.
Moi, je raisonne.
Les petits patrons qui galèrent quoi, et qui sont obligés de déposer le bilan.
Non, mais les petits patrons ne doivent pas cacher, effectivement, les manipulations et cette domination des gros qui prospèrent. Et encore une fois, moi, justement, une des particularités de ma candidature, c'est de me positionner du point de vue des salariés. Je pose la question, de quoi ont besoin les salariés ? Les femmes et les hommes qui sont nés sans capitaux, qui n'ont rien sauf leurs mains, leurs bras, leur tête. Qu'est-ce qu'il leur faut ?
Gagnent leur vie en travaillant.
Il faut qu'ils aient un emploi. Il faut qu'ils aient un salaire qui leur permette de vivre, une retraite, de quoi se loger. Donc il faut se poser, moi je me pose la question de ce point de vue-là. Et je dis que oui, il faut répondre à les travailleurs, c'est l'écrasante majorité, ils font tourner toute la société, ils en sont la base, ce sont les forces vives de la société, ils ont des droits et ils sont légitimes à les mettre en avant, à ne pas passer toujours dessous la table. Et y compris, on ne peut pas rayer d'un trait de plume les revendications des salariés parce qu'il y a des petites entreprises en difficulté. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Des petites entreprises en difficulté, il y en aura toujours. Parce que vous savez, même dans le patronat, c'est le règne de l'inégalité. C'est même au sein du patronat, il y a des grands patrons et il y a des petits patrons.
Vous soutenez des petits patrons en difficulté aussi.
Les grands patrons, ils écrasent les petits. La réalité, c'est que ce n'est pas les salariés qui les mettent en difficulté, les petits patrons. C'est les banques, c'est les donneurs d'ordre, c'est les gros qui pèsent sur eux. C'est les loyers qu'ils doivent verser aux propriétaires immobiliers.
Il faut aussi qu'ils puissent intéresser des investisseurs étrangers. Il faut qu'ils puissent exporter. Il faut qu'ils puissent, vous voyez. Et pour l'image de la France à l'international, c'est vrai que ça fait peur.
Non, mais s'il s'agit de se réduire encore plus en esclavage, hein, pour qu'il y ait bien des maîtres qui veuillent venir, hein, on n'a pas besoin de ça.
Moi, on ne peut pas vivre en autarcie. La France ne peut pas vivre toute seule avec elle-même.
Moi, je suis convaincue qu'on peut se débarrasser de cette classe capitaliste qui domine aujourd'hui l'économie et qui l'emmène dans le mur. Parce que cette classe capitaliste, elle est parasitaire, elle est anachronique, elle est irresponsable. Non seulement je dénonce le fait que c'est des sommes inouïes, indécentes qui s'accumulent à ce pôle-là et puis qui vont dans des caprices de riches, dans la spéculation, mais je dénonce aussi son rôle. Les décisions que cette classe-là prend, c'est des décisions purement égoïstes. Il s'agit
Quelles mesures concrètes voudriez-vous que le président, futur président, dans 10 jours, dans 15 jours, prenne en arrivant à l'Élysée pour essayer d'améliorer cette situation?
Concrètement, il y a chez Vivarte des fonds vautours, des fonds capitalistes qui ont siphonné le groupe, qui ont plongé les enseignes dans un endettement sans fin, et c'est 2000 emplois qui sont sur la sellette. Eh bien, moi, j'imposerai à ces groupes de payer. Voilà, de payer, de rayer la dette et de payer pour que ces enseignes continuent de fonctionner et que les salariés soient... Pareil pour Whirlpool. Whirlpool, il paraît qu'ils sont en train de chercher un repreneur. Mais attendez, c'est un groupe qui est richissime, qui a un grand groupe américain qui a des milliards. Il faudrait l'interdire.
Donc, mesures concrètes, on interdit les licenciements.
On interdit les fermetures de ces grands groupes. On les oblige à maintenir les emplois. Et s'ils ne sont pas d'accord avec ça, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire les menacer d'être réquisitionnés, d'être expropriés. Parce que ces grands groupes...
Exproprier les grands groupes.
Exproprier ceux qui... Voilà, qui ravage des régions entières avec cette politique-là, rapace. On nous explique qu'il y a des intérêts communs. Ces grands groupes, finalement, représentent les intérêts de tous. Mais là, on a la preuve que ce n'est pas le cas.
Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allié avec Philippe Poutou? Vous auriez eu plus de poids dans cette campagne?
Ben non, on n'aurait pas eu plus de poids parce qu'on aurait eu deux fois moins de temps de parole, deux fois moins d'arguments,
C'est pas faux.
Au lieu d'avoir deux campagnes, on n'en aurait eu qu'une. Donc non, et on ajoutera nos scores. On est complémentaires et on est deux courants, deux sensibilités différentes de l'extrême gauche, avec nos différences aussi, avec nos désaccords qui sont minimes au regard de notre perspective de changer la société et de considérer que le capitalisme, ça ne peut pas être l'avenir de l'humanité, mais en même temps, nous sommes deux courants de sensibilité. Il n'y a pas de raison. On n'est pas pour le parti unique à l'extrême gauche. Vous voyez, on nous reproche souvent les caricatures, parce qu'on parle de communisme. Alors voilà, on assimile au stalinisme. Mais nous, on n'est pas pour le parti unique. Voilà.
Vous dites que vous êtes la candidate des travailleurs. Et là, c'est Marine Le Pen qui fait les plus gros scores chez les travailleurs. Comment est-ce que vous recevez ça, cette information-là ?
Mais Marine Le Pen, elle surfe sur le désarroi, sur la désorientation, sur le fait que beaucoup de femmes et d'hommes dans les classes populaires se sont sentis piétinés. Se sentent bafoués par la gauche gouvernementale dans laquelle ils avaient cru pendant des décennies.
Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Vous les rencontrez, vous êtes sur le terrain tout le temps.
Je leur dis qu'ils se trompent et je leur dis que voilà, il faut bien l'écouter, Marine Le Pen. Jamais elle dénonce les véritables responsables, justement, les licencieurs, ceux qui bloquent les salaires, ceux qui imposent cette flexibilité au monde du travail, ceux qui écrasent la condition ouvrière. Jamais, jamais. Elle veut s'en prendre à des travailleurs, à d'autres pauvres et souvent les plus pauvres d'entre eux. Mais c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Sûrement pas en se divisant. Parce que ça, c'est la politique qui va bien au patronat. Quand on montre des boucs émissaires, l'Europe, les immigrés, c'est toujours, toujours pour que ceux qui dominent tirent leur épingle du jeu. Et ceux qui dominent, c'est cette classe capitaliste, justement, qui en a d'ailleurs plein les poches. Donc voilà, je leur dis, vous vous trompez. Ce n'est pas parce que vous avez été trahi qu'il faut se jeter, trahi par ceux dans lesquels vous aviez placé votre confiance, qu'il faut se jeter dans les bras de n'importe quel charlatan. Et y compris le Front National, c'est un parti de notable. C'est un parti de notable. Mmh. Marine Le Pen, elle est issue de ce monde bourgeois. C'est une défenseuse de l'ordre capitaliste, de la propriété privée, de ces grands groupes. Donc elle ne peut pas être dans le camp des travailleurs. Elle veut les voix des travailleurs. Elle fait de la démagogie, ça c'est sûr, mais elle n'est pas dans le camp des travailleurs.
Notre émission tout à l'heure, c'était sur l'éventualité d'un deuxième tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. S'ils sont tous les deux au deuxième tour, vous appelez à voter pour Jean-Luc Mélenchon?
Moi, je réponds pas à cette question-là. Là, parce qu'il y a une semaine, on me demandait Macron,
Le Pen. J'allais vous le demander après.
Ah bah voilà, on va tout faire. Bon, écoutez, non, on va attendre de voir la situation politique au sort du premier tour. Et moi, jusqu'au bout, et même ce soir du premier tour, je dirais aux travailleurs, attention, il ne faut pas croire qu'il y aura un président de la République qui va nous protéger.
Vous pourriez
ne pas
appeler à voter Jean-Luc Mélenchon.
Ah mais je ne vous répondrai pas là-dessus. Je vous répondrai le soir du premier tour. Mais je dirai de toute façon, voilà, la meilleure protection, c'est de se battre. c'est de se battre. C'est sûrement pas de faire le dos rond, c'est sûrement pas de, hein, de se faire tout petit, de ne pas revendiquer, parce que voilà, on est confronté à une guerre qui est menée par une classe qui est déterminée, qui en veut toujours plus. Donc la meilleure protection, bah, c'est de se battre collectivement, c'est de renouer avec les luttes puissantes. Donc ne croyez pas qu'un président de la République va faire ça à notre place.
Ce qui est certain, c'est que la gauche sera remaniée après les élections, quoi qu'il se passe, hein, a priori. On a vu que pour le Parti socialiste, c'était particulièrement compliqué. Vous pourriez y jouer un rôle dans cette nouvelle gauche ?
Pas dans la gauche gouvernementale. Et moi, je ne me revendique pas de la gauche, d'ailleurs. Dans cette campagne, je me revendique du camp des travailleurs. Voilà, et clairement une rupture. Alors nous, la rupture, nous l'avons faite depuis longtemps, justement, parce que pèse notre bulletin de vote ?
Vous êtes un parti d'opposition, quoi qu'il arrive, c'est ça que vous nous dites, en fait.
À l'ordre capitaliste, que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché ? Qu'est-ce qu'il pèse, notre bulletin de vote ? Quand on est un pion dans le monopoly capitaliste, alors on peut choisir celui qui va prendre telle ou telle mesure sociétale. Bon, d'accord, ça, c'est la marge de manœuvre que les présidents de la République ont. Mais les présidents de la République n'ont pas la marge de manœuvre, hein, de dire à ArcelorMittal, non, vous fermez pas Florange. Ou de dire à Peugeot, non, vous fermez pas Aulnay. Ou de dire à Vivarte, non, vous fermez, non, vous payez. En tout cas, ils ne le souhaitent pas. Parce qu'ils ne veulent pas remettre en cause cet ordre capitaliste qui est basé justement sur cette minorité qui possède les capitaux. Ils ne veulent pas les contester, ils ne veulent pas les remettre en
cause. Vous ne vous considérez pas de gauche, d'après ce que je comprends, que vous êtes le parti des travailleurs, est-ce que je peux juste avoir votre analyse sur l'état de la gauche, entre la gauche sociale, la gauche libérale, la gauche anticapitaliste, la gauche... Comment est-ce que vous voyez ce paysage politique là en ce moment ? Il vous reste une minute juste.
Non, mais c'est très simple. Le Parti socialiste s'est discrédité. Oui. Hein, donc, a perdu l'électorat le plus populaire. Aujourd'hui, certains misent sur un électorat un peu moins populaire. D'autres veulent continuer. Donc oui, il y a une division, il y a une explosion. C'est leur responsabilité. Mais encore une fois, voilà, moi, je tiens à dire aux travailleurs qu'il n'y a pas d'issue dans le cadre de cette société. Il faut la contester. Moi, je suis communiste.
La révolution arrive.
Je ne dis pas que la révolution arrive. Je dis que c'est une nécessité. Je dis que c'est une nécessité. Vous savez, vous pouvez un peu vous moquer en disant la révolution arrive, mais regardez.
Je me moque pas. C'est que une majorité de candidats sont effectivement des candidats qui prônent ce qu'on a dit pendant toute l'émission.
Je dis que c'est une nécessité.
Ceux
qui expliquent, voilà, ma politique, ça va permettre à la planète d'être sauvée, etc. C'est une nécessité de sauver la planète, c'est sûr. Mais ils en sont encore loin avec leur politique, en réalité. Donc voilà. Non, le combat, il est à mener. Et moi, je dis qu'au premier tour, eh bien, on l'exprime collectivement.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Dans 24 heures en question. Cette émission est rediffusée ce soir à 22h10 et je vous retrouve demain à 18h pour 24 heures en question, le samedi. À demain.
Un regard éclairé sur le monde. 24 heures en question.